3.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un professeur d'histoire du Moyen-Orient à Sciences Po. Il publie comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné. C'est aux éditions du Seuil, en librairie le 9 février. Vos questions, réactions 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Jean-Pierre Filiu, bonjour.
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 Et bienvenue à ce micro avant d'aborder avec vous les derniers développements de la guerre entre Israël et le Hamas, guerre qui entre dans son cinquième mois. Parlons de votre livre, dense et passionnant. Ce n'est pas une énième histoire du Proche-Orient, mais une tentative de synthétiser les dynamiques à l'œuvre dans ce conflit centenaire. Vous parlez au sujet du conflit israélo-palestinien, d'une défaite sans vainqueur pour les Palestiniens, d'une défaite tellement paradoxale qu'elle n'a apporté ni la paix ni la sécurité à la partie dominante israélienne. Dites-nous pourquoi être parti de là, de ce paradoxe qui fait le titre et le cœur de votre livre ?
Oui, effectivement, il y a une historiographie pour le moins dense de ce conflit qui n'a que trop duré. Et j'ai voulu rompre avec la thématique chronologique pour montrer comment les forces des uns s'étaient imposées aux faiblesses des autres, mais surtout ce paradoxe que vous soulignez très justement, que malgré les forces impressionnantes des Israéliens, jamais le rapport de force n'a été aussi écrasant, et bien on a eu l'épouvante des attaques terroristes du 7 octobre 2023. Donc c'est une défaite sans vainqueur, la défaite palestinienne est claire, elle est même écrasante, à certains égards à Gaza effroyable, mais il ne peut pas y avoir de victoire militaire, il ne pourra y avoir de victoire que politique, et ça, un Israélien l'avait compris, c'était Yitzhak Rabin, qui de toutes les guerres d'Israël avait décidé de conclure par un processus politique, c'était les accords d'Oslo en 1993.
Et il l'a payé de sa vie, Yitzhak Rabin. On va revenir à l'avenir. Vous dites qu'il n'y a qu'une solution politique qui peut exister, on va y venir. On va revenir aussi à ce qui s'est passé le 7 octobre, à ce moment décisif et peut-être nouveau pour la guerre au Proche-Orient. Mais si on reprend votre livre, ce qui est nouveau effectivement, c'est que vous n'étudiez pas le conflit israélo-palestinien de manière chronologique, mais thématique. En fait, votre livre est décomposé en deux parties. Dans la première, vous analysez les trois forces israéliennes. Et dans la deuxième partie, vous analysez les trois faiblesses palestiniennes. Avant de nous les détailler, vous dites d'abord qu'il est nécessaire de sortir d'un certain nombre d'impasses intellectuelles. Celle, dites-vous, du mythe d'un État binational partagé entre juifs et arabes, et celle, d'autre part, d'une question palestinienne une fois pour toutes enterrée. Expliquez-nous.
La question Palestine enterrée se mit à voler en éclats tragiquement à la face du monde depuis l'automne dernier. Quant au mythe d'un État binational, c'est par définition une fausse bonne idée, vu qu'on l'agite en disant, vous voyez, on n'arrivera pas à faire les deux États, donc pourquoi pas l'État binational ? Sauf que, l'État binational, d'une certaine façon, il existe déjà, sauf que c'est sous une forme qui n'est pas avouée, où on a un État binational avec une domination israélienne sur la population palestinienne, et qu'à l'évidence, ça n'est une solution ni pour les uns ni pour les autres.
Mmh. Jean-Pierre Filiu, allons-y. Commençons par les trois forces israéliennes, un sionisme historiquement chrétien, un pluralisme de combat, une stratégie de fait accompli. Vous consacrez votre premier chapitre à ce sionisme chrétien qui a été déterminant dans la victoire d'Israël. Et ce qu'on apprend dans votre livre est hallucinant. Vous écrivez, je vous cite, « Le sionisme, en tant que mouvement prônant le rassemblement du peuple juif sur la terre d'Israël, a été historiquement chrétien avant que d'être juif. Cette réalité, aussi méconnue que déroutante, a représenté un formidable atout pour l'implantation juive en Palestine. » Qu'est-ce que ce sionisme chrétien qui est apparu au 19e siècle aux États-Unis ?
Oui, alors effectivement, en France, on est un peu rétif à ce type d'idéologie qu'on juge exotique, voire déviante. Or, c'est une force qui s'est imposée, d'abord dans l'évangélisme anglo-saxon, et qui a littéralement façonné l'imaginaire de décideurs donc protestants, qui, d'une certaine façon, étaient plus sionistes que les sionistes. En tout cas, il y a une antériorité chronologique incontestable. Et je reproduis aujourd'hui une carte très frappante du révérend Bush en 1844, donc cousin d'un lointain ancêtre de deux présidents américains, donc George W. Bush, George Herbert Bush. Lui était professeur d'hébreu à New York, et on a une carte de Palestine sans Palestiniens, avec les tribus d'Israël. Ça date d'il y a près de deux siècles, et c'est antérieur d'un demi-siècle à l'état des Juifs de Théodore Herzl. Donc tout ça est assez frappant.
Et vous dites on ne comprend rien au soutien américain à Israël si on ne comprend pas l'importance de ce sionisme chrétien. C'est quelque chose qui est déterminant, dites-vous, avec l'importance prise par les évangélistes au sein du Parti républicain, et notamment chez Donald Trump et ses partisans. Vous écrivez, le sionisme chrétien est bel et bien devenu le principal allié du Likoud aux États-Unis. Trump recueillant, écoutez ce chiffre assez édifiant, Trump recueillant 81% du vote évangélique blanc, mais seulement 25% du vote juif. C'est intéressant, c'est paradoxal, mais c'est ainsi en fait. C'est les évangéliques qui sont, à votre sens, qui encouragent la proximité des dirigeants américains avec Israël, et notamment avec le Likoud, avec Netanyahou.
C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le lobby qui se dit pro-israélien est devenu un lobby pro-Likoud. Ça a commencé contre Jimmy Carter, avec ce qu'on appelait la majorité morale, qui est devenue la coalition chrétienne. Mais surtout, ça a été un lobby qu'Itzhak Rabin, au moment du processus de paix, a dû affronter directement. Et le Premier ministre d'Israël est obligé de se plaindre publiquement de ces groupes de pression qui agissent contre le gouvernement israélien démocratiquement élu.
Jean-Pierre Filiu, parlez-nous maintenant des deux autres forces israéliennes dans ce conflit. Je les rappelle, le pluralisme de combat d'abord et la stratégie du fait accompli qui ont, à vos yeux, permis donc au projet sioniste de se déployer.
Donc effectivement, le mouvement sioniste a toujours réussi à accueillir en son sein, de manière plus ou moins apaisée, des tendances très contradictoires, mais avec cette dynamique de combat, de pluralisme, hein, qui fait qu'il y a toujours eu une unité dans les moments où l'ensemble des militants et de la population jugeait que l'enjeu était fondamental, voire existentiel. Alors c'est évidemment le cas en 1948 lors de la fondation de l'État d'Israël, mais aussi en 1967 avec le sentiment d'encerclement. Mais on voit en même temps que ce pluralisme démocratique, eh bien il profite toujours aux plus durs, aux plus extrémistes. Alors parfois ça prend un peu de temps, il a fallu 30 ans pour que la droite du Likoud l'emporte sur les travaillistes qui dominait Israël depuis sa fondation, mais aujourd'hui c'est pratiquement un cas d'espèce. C'est-à-dire qu'en fait, ce schéma d'interprétation, je l'avais forgé avant le 7 octobre 2023, mais il se confirme de la manière la plus éclatante. Là, on voit bien que Netanyahou a beau un peu tenter de diriger ce qu'il croit diriger dans cette guerre, ce sont les suprémacistes qui définissent très clairement l'agenda politique et idéologique.
Et c'est quoi la stratégie du fait accompli, chérie, d'Israël ?
Le fait de ne jamais donner l'objectif final. Et on voit que, dans d'autres mouvements, ça pourrait paraître un peu déroutant. Mais dans ce cas, ça a permis, de manière très intelligente, pas forcément d'ailleurs consciente, je crois que c'est plus de l'ordre du mécanisme de survie collective et de mobilisation collective. Et donc, d'abord, le foyer national juif, 1917, avec la déclaration Balfour. Ensuite, la première partition envisagée par les Britanniques en 1937. L'État juif en 1947. L'occupation des territoires en 1967. Et on voit bien qu'à chaque fois, même Netanyahou aujourd'hui refuse de dire ce qu'il veut faire de Gaza. Il a été interrogé des dizaines de fois, de manière un peu pressante d'ailleurs par les États-Unis. Il refuse. Et donc, en se gardant les mains, les options ouvertes, on voit bien que c'est une prime aux plus extrémistes.
Alors face à ces trois forces israéliennes que vous détaillez dans la première partie du livre, il y a dans la deuxième partie les trois faiblesses palestiniennes. La première d'entre elles est, selon vous, l'illusion de la solidarité arabe. Les Palestiniens ont eu tort depuis le début du XXe siècle, au fond, depuis 1947 de manière aiguë, de penser que les pays arabes allaient les soutenir, allaient les aider.
Dans cette belle ville de Paris qui a vu en 1913 le premier congrès arabe, s'est déroulée, si j'ose dire, la première trahison arabe des Palestiniens, vu que les militants venus de Palestine souhaitaient que le sionisme soit à l'ordre du jour, et tous les autres délégués arabes, pour ne pas indisposer les autres patriotes français ont refusé. Voilà. Et depuis, on voit qu'à chaque fois, la Palestine a été trop arabe pour que les Arabes ne s'en occupent pas, mais pas assez palestinienne pour s'affirmer contre ces Arabes. Et je mets vraiment en lumière des guerres épouvantables menées par des régimes arabes contre le nationalisme palestinien et les civils palestiniens. D'abord, évidemment, en Jordanie, c'est le fameux septembre noir de 1970, mais il y a les deux longues guerres de Hafez al-Assad, donc le père de l'actuel tyran syrien, les deux longues guerres d'Hafez al-Assad contre les Palestiniens au Liban en 1976 et en 1983.
Jean-Pierre Filu, la deuxième faiblesse est ce que vous appelez la dynamique factionnelle du nationalisme palestinien, aboutissant à d'innombrables affrontements internes, bien avant la création de l'État d'Israël, familles, factions palestiniennes s'opposent entre elles.
Là, j'avoue que j'ai été assez effaré de tout ce que j'ai découvert en creusant un peu cette histoire palestinienne, la profondeur, l'enracinement de ce factionnalisme qui a été désastreux pour la mobilisation nationaliste dans l'entre-deux-guerres. Alors justement que le sionisme était en plein essor militant, il y a eu donc ces deux grandes familles de Jérusalem, les Husseini et les Nachashibi, qui se sont divisées de manière presque inexpiable. Et on voit comment, après l'exode de 1948, le factionnalisme a été en fait exporté presque comme mécanisme de survie de cette population éclatée, dispersée, et que donc, loin d'avoir été atténué par les statuts des réfugiés, il s'est reproduit, il s'est même aggravé dans l'exil, et on le retrouve dans les factions palestiniennes avec le jeu des différents États arabes qui aggravent cela l'un contre l'autre.
Alors, avant de passer au 7 octobre et à ses suites, la dernière des trois faiblesses que vous listez, des trois faiblesses palestiniennes, et que l'on retrouve d'ailleurs de manière aiguë depuis le début de la guerre à Gaza, c'est la fameuse expression du deux poids deux mesures, le deux poids deux mesures de la communauté internationale, à la fois surinvestie, dites-vous, et incapable de faire respecter le droit international au Proche-Orient. Sur ce point là, vous êtes particulièrement dur avec l'Union européenne. Une Union européenne réduite, dites-vous, au rôle de bailleur de fonds et qui s'est réfugiée derrière les communiqués lénifiants sur la solution à deux États pour compenser sa défaillance.
Là, on voit bien que depuis le 7 octobre, il y a quand même une prise de conscience de l'Union européenne qui est tout à fait bienvenue. C'est-à-dire que on avait un consensus mou, si j'ose dire, où on payait pour ne pas agir. Il y a même un adage chez les humanitaires internationaux, les Américains décident, les Européens payent et l'ONU nourrit, l'ONU aide. Donc, il faut que l'Union européenne, évidemment, désormais, aille au-delà.
Vous l'entendez là ? Vous entendez l'Union européenne depuis le 7 octobre ?
Déjà, on a vu une prise de position en faveur de la solution à deux États qui a fait consensus, malgré les divergences que l'on sait entre les États membres. Et on voit cette importance pour l'Union européenne de jouer ce rôle. D'ailleurs, elle n'a pas beaucoup le choix. Les États-Unis seront aux abonnés absents en termes de processus de paix. Un processus de paix, c'est une gestion très, très lourde. Il faut un investissement dans la durée.
Si Trump gagne, seront abonnés aux abonnés absents si Trump gagne.
Mais même actuellement, faut quand même être sérieux. Un processus de paix, on n'attend pas on ait des dizaines de milliers de victimes pour le lancer. Il faut essayer à chaud d'éviter la catastrophe. Et ça, c'est une vraie culture diplomatique qui est différente d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Les Américains attendent en gros que la guerre se conclue avec un rapport de force le plus favorable possible pour Israël. C'est la même pratique depuis Kissinger dans les années 1970, tandis que chez les Européens, il y a cette culture de régler un conflit à chaud quand justement il y a des possibilités d'évolution.
Sur le deux poids deux mesures, Jean-Pierre Filu, vous avez un exemple étonnant, c'est celui de ChatGPT. Vous écrivez que l'application d'intelligence artificielle à qui est posée la question « Les Palestiniens méritent-ils la justice ?» répond, vous la citez, que la justice pour les Palestiniens est un sujet complexe et vivement débattu. Et lorsqu'on pose la question à propos des Israéliens, la réponse de la machine est que les Israéliens, comme tous les autres peuples, méritent la justice et la protection de leurs droits. Et vous en concluez que le contraste entre les deux réponses illustre la profondeur du biais pro-israélien dans le débat public. Mais certains vous diraient précisément, à l'inverse, que l'opinion publique internationale est massivement anti-israélienne, en tout cas passé les quelques jours de sidération après le 7 octobre, non ?
Il y a un adage que je rapporte, hein, qui remonte à 1948 dans la communauté diplomatique internationale, qui était de dire, avec les Israéliens, si on est d'accord à 90%, ben, ils vous accuseront d'être antisémites pour les 10% sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec eux, alors que du côté arabe, c'est exactement l'inverse. On voit aujourd'hui, avec la campagne qui est menée par Israël contre l'ONU, que ça a repris avec une vigueur absolument inégalée. Donc effectivement, hein, dans ces cas-là, pour faire taire les moindres critiques, on n'hésite pas à aller dans la démesure, l'excès, voire, avouons-le, la diffamation.
Mais la communauté internationale, vous la trouvez pro-israélienne, vous ?
Qu'est-ce que c'est que la communauté internationale ? Si la communauté internationale, c'est, comme on le dit souvent, c'est-à-dire les gens qui décideront au dernier moment, les États-Unis et l'Union européenne, on peut difficilement dire qu'elle soit biaisée à l'encontre d'Israël.
Sur le 7 octobre, vous écrivez « Israël, anesthésié par un rapport de force écrasant en sa faveur, s'était persuadé que son avenir pouvait être indéfiniment construit sur le refus d'accorder au peuple dominé le moindre horizon politique. Mais une telle illusion a volé en éclats le 7 octobre 2023, dans l'épouvante de la campagne terroriste du Hamas. Tous les sentiments sont légitimes face à l'horreur perpétrée ce jour-là. La sidération, la rage, le désespoir, la colère, l'effroi ou la dépression, tous ces sentiments sont légitimes, sauf la surprise. » Vous n'avez pas été surpris le 7 octobre de ce qui s'est passé,
Jean-Pierre Filu ? Il se trouve que le 7 octobre à 14h, j'intervenais au rendez-vous de l'histoire de Blois, à l'invitation de l'académicien Pascal Horry, sur l'Israël de Netanyahou. Donc, ma réaction spontanée a été de solidarité avec toutes les victimes, le 7 octobre à 14h, et de libération inconditionnelle des otages. Donc évidemment, effaré par l'ampleur, mais surpris par le déclenchement, non. Cette situation était intenable, hein, et l'idée qu'elle aurait pu se prolonger indéfiniment montrait l'aveuglement idéologique des décideurs qui prévalaient. Et donc on voit bien comment tout cela s'est effondré, et comment effectivement, la situation est aujourd'hui totalement différente.
Vous qualifiez cette attaque du Hamas et ses près de 1200 morts israéliens de véritable orgie de sang, de torture et de pillage. On n'oublie pas d'ailleurs qu'il reste 134 otages israéliens aux mains du Hamas, alors qu'un hommage national sera organisé demain pour les victimes françaises du 7 octobre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en historien sur le traumatisme qu'a représenté cette attaque sur la société israélienne ? Elle s'est sentie menacée dans son existence même comme peut-être jamais auparavant ?
Ah oui, jamais. Jamais. Parce que, d'une certaine façon, les pires angoisses se sont concrétisées et sont devenues une réalité effroyable. Il y a pratiquement aucun foyer en Israël qui n'a pas été touché directement ou indirectement. Mais soulignons-le aussi, il y a aussi ce sentiment d'abandon terrible pendant de longues heures où la sécurité israélienne n'était pas là, l'armée israélienne n'était pas là, ou à Sderot, quand le commissariat est occupé par les terroristes du Hamas, eh bien Israël préfère bombarder son propre commissariat parce que elle ne pense pas pouvoir le reconquérir.
C'est une défaite aussi du renseignement et une défaite militaire israélienne. Ce qui s'est passé le 7 octobre, en réaction, en tout cas la sidération a été telle.
C'est plus qu'une défaite, c'est un effondrement. Et d'un effondrement, il faudrait sortir en envisageant autre chose. Et cette autre chose, il paraît clair, c'est que la sécurité d'Israël n'a pas été assurée par Israël seul. Israël a besoin d'un partenariat pour assurer sa propre sécurité.
Quant à l'offensive israélienne sur Gaza depuis 4 mois, qui a fait plus de 27 000 morts, dont plus de 10 000 enfants selon le Hamas. Vous dites que c'est pour la population palestinienne la plus meurtrière et la plus destructrice des tragédies, pourtant nombreuses de son histoire. Pour vous, là, il y a quelque chose aussi d'absolument inédit.
Oui, hein, de même que le 7 octobre est la journée la plus sanglante de l'État d'Israël, on a sous nos yeux une deuxième Nakba, la Nakba, la catastrophe, hein, c'est ainsi que les Palestiniens désignent en arabe l'exode de 1948 de plus de la moitié de la population arabe de Palestine. Mais là, on est dans des dimensions totalement différentes. Hein. En 1948, on a eu 13 000 morts. Là, on en a déjà deux fois plus en proportion. On est à 1,2%. Ce 2% est terrible de la population de Gaza qui a d'ores et déjà été tuée. Donc, imagine le nombre de blessés, le nombre de... Et puis, en termes de déplacés. On a près de 2 millions de déplacés, quand il y en avait eu, et à l'époque ça paraissait effroyable, 750 000 en 1948.
On va passer au standard d'Inter, où nous attend Eric. Bonjour, bienvenue Eric.
Bonjour.
On vous écoute. Oui,
je voulais poser une question à M. Filu. Est-ce qu'il existe à sa connaissance des interlocuteurs, tant du côté israélien que palestinien, qui souhaiteraient sortir de cette tragédie ? Est-ce qu'il passerait par un certain sens de renoncement, nécessairement ?
Merci Eric pour cette question. Jean-Pierre Filu vous répond.
Le mot de renoncement que vous employez, il est très fort. Il faut savoir que la paix, c'est terrible. À bien des égards, c'est plus difficile à mener que la guerre, parce que la paix, c'est des concessions très vite en pariant sur l'avenir. Et puis la paix, c'est faire confiance à ses ennemis pour l'avenir, y compris l'avenir de ses enfants. Donc il y a des forces, évidemment, dans les deux peuples. Hein. Je nourris un dialogue régulier avec la paix maintenant. J'ai évidemment mes contacts... Le mouvement israélien pacifiste. Et j'ai évidemment mes contacts et mes relais côté palestinien. Mais on voit bien que aujourd'hui, les deux peuples sont tellement enferrés dans ce conflit perçu à juste titre comme existentiel par les uns et les autres, qu'il faut une tierce partie pour qu'ils en sortent.
La question d'Arthur sur l'application de France Inter. Bonjour, pensez-vous que pour que la guerre se finisse, il faut l'anéantissement d'un des deux camps par l'autre ?
D'abord, au-delà du fait que cette perspective est effroyable, d'anéantissement, là
aussi... Je vous la pose parce que
les mots ont un sens. Cette perspective d'anéantissement est totalement déraisonnable. On est sur une terre où les uns ou les autres ont prouvé leur enracinement indéfectible. On est sur une terre où aujourd'hui on a à peu près autant de juifs que d'arabes, 7 millions. L'idée qu'une partie pourrait effectivement l'emporter de manière aussi radicale est exclue et moralement on ne peut que s'en féliciter.
12 employés de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, sur les 30 000 employés de l'agence sont accusés par Israël d'avoir été impliqués dans l'attaque du 7 octobre. L'UNRWA a annoncé avoir licencié la plupart des salariés concernés. Une douzaine de pays, dont d'importants donateurs, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Suède, ont annoncé suspendre leur financement de l'agence. Une commission d'enquête a été mise en place par l'ONU, dirigée par Catherine Colonna. Quelle lecture faites-vous de cet épisode ? Y a-t-il des proximités entre l'UNRWA et le Hamas ?
Les chiffres que vous avez mentionnés sont parlants. 12 accusés sur 30 000 employés. Je crois comprendre qu'ils avaient tous été mis à pied avant que cette polémique ne soit rendue publique. Et je fais confiance au professionnalisme de Catherine Colonna pour que toute la lumière soit faite sur cette triste affaire.
Vous qui travaillez sur la question palestinienne depuis des années, Jean-Pierre Filu, vous voyez une zone d'espoir, vous essayez d'esquisser une zone d'espoir dans la conclusion de votre livre à la fin, mais enfin, on a l'impression que c'est difficile d'y croire aujourd'hui.
Oui et non, parce que là, on peut, dans cette situation paroxystique, considérer que justement toutes les formes de violence ont été épuisées et qu'à partir de là, il faut à tout prix sortir par le haut. La solution à deux États, je constate qu'elle était considérée un peu irréaliste il y a moins d'un an. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Et puis, de toute façon, les deux peuples n'ont pas le choix. Et si Israël veut enfin gagner la sécurité, gagner la paix, la solution ne peut être que politique. Évidemment, pour les Palestiniens, c'est la seule voie de voir un minimum de droits enfin reconnus.
Jean-Pierre Filu, merci. Comment merci. La Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné, publié aux éditions du Seuil et sera en librairie ce 9 février. Merci encore d'avoir été au micro d'Inter.